soir et merci de nous rester fidèles à l'écoute de la tribune de presse ce vendredi 19 août 2016 que vous présente Berry Franklin Chaka. Un seul thème réunit les journalistes ce soir, c'est justement le massacre à Beni. Vous le savez, au moins 50 personnes ont été tuées dans les massacres perpétrés à Beni dans le Nord Kivu en fin de semaine dernière. En réaction, le gouvernement congolais a décrété 3 jours de deuil national et le Conseil supérieur de la défense, réuni lundi à Goma en présence du chef de l'État, a pris une série de mesures pour en finir avec cette tuerie. Pour en parler avec moi, je reçois dans ce studio Baudouin Saïli. Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir confrère.
Vous êtes journaliste et éditeur du journal La Chopo et paraissant à Kinshasa, j'y arrive. Et puis Peter Siani, bonsoir.
Bonsoir, Véré.
Vous êtes directeur général du Vrai Journal, partenaire à Canal Congo Télévision et certains autres médias quinois. Et en province, je m'en vais saluer Jean-Baptiste Badira. Bonsoir.
Bonsoir Franklin, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Vous êtes journaliste et directeur provincial de Canal Future TV, un média émettant à Bukavu. Vous êtes aussi correspondant de l'AFP. Je dis aussi bonsoir à Héritier Tidiakala qui assure la mise en onde de ce numéro. Et pour commencer, voici la prévue de presse qui vous présente Kelly Koutaki. Je dis bonsoir.
Bonsoir. Les nouveaux massacres dans la ville de Beni au Nord Kivu, moins d'une semaine après la visite du président de la République dans la région, ont pratiquement volé la vedette à plusieurs sujets d'actualité. Cette semaine. Qui a encore tué à Beni s'interroge la référence plus au sujet de ce nouveau massacre des Congolais sur leur terre. Le bilan est très lourd, 36 morts dont 22 hommes et 14 femmes ligotées puis décapitées pour certains. D'autres ont été brûlés vifs. Cette attaque survient 3 jours seulement après une visite du président congolais au cours de laquelle il a promis de tout mettre en œuvre pour imposer la paix et la sécurité dans la région, renseigne ce quotidien. Pour la tempête des tropiques, les rebelles ougandais ont défié les autorités congolaises en tuant 36 personnes. Ils ont entamé leur forfait vers 18h, tuant à la machette et à la hache, fait savoir ce journal, qui rapporte la conclusion des beaucoup d'ONG sur place, qui estiment que la pacification de ces territoires nécessite le déploiement d'une opération militaire internationale beaucoup plus musclée, à l'instar d'Artemis, menée par l'Union européenne en 2003 en Ituri. Le phare fait un constat, est de la RDC, rien n'a changé. Le cycle des massacres est loin de s'arrêter. Au-delà des faits, ce journal s'interroge. À l'image des FDLR, la rébellion ougandaise présente une particularité, le fait de n'alimenter l'insécurité et de ne s'aimer la mort que sur les territoires congolais. C'est très bizarre pour des rebelles censés combattre les régimes du président Museveni, conclut ce journal. Le Forum des As s'est fait l'écho de la position du gouvernement qui a décrété un deuil national de 3 jours et qui dénonce des actes qui ne diffèrent en rien de ceux signalés, notamment au Nigeria, au Mali, au Cameroun ou hors du continent, comme en France, en Belgique et aux États-Unis d'Amérique. Béni, le pape François dénonce un silence honteux, titre le phare. Le journal relaie plusieurs positions. D'abord celle du gouvernement qui assimile cette attaque au terrorisme radical et demande à la communauté internationale de prendre conscience de la menace terroriste. Ensuite, de la majorité présidentielle qui appelle les États de la sous-région à soutenir les FRDC contre ses agents du terrorisme international. Des opposants dont Moïse Katumbi qui demande au gouvernement de sécuriser la population au lieu de s'attaquer aux défenseurs de la Constitution. Et Vital Kamerhe qui estime nécessaire la tenue d'une table ronde sur cette question. Enfin, l'Union africaine qui invite les FRDC et la MONUSCO à prendre leurs responsabilités. La réponse de Joseph Kabila titre l'avenir, c'est une importante réunion sécuritaire à Goma, selon ce quotidien, pour éviter les infiltrations des islamistes ougandais qui n'hésitent pas à se présenter en tenue des FRDC pour semer la confusion. Le commandement de l'opération Sokola a déjà proposé les nouvelles tenues qui ne seront portées que par les militaires qui opèrent dans les secteurs opérationnels Grand Nord.
Merci Kelly. Et dans l'actualité, sachez qu'il y a eu un tête-à-tête hier jeudi entre le président de la République et les jeunes du mouvement citoyen de la lutte pour le changement. Pendant 2 heures, les 47 jeunes de la LUCHA affirment avoir dit clairement au chef de l'État le pourquoi de leur lutte citoyenne, à savoir respect scrupuleux de la Constitution, libération de leurs camarades emprisonnés, retour de la sécurité à Beni et sur toute l'étendue du territoire national et enfin garantir la liberté d'expression pour tous. En réaction, le président Kabila aurait promis un certain nombre de choses, mais s'agissant des élections, il leur a dit qu'il y aura des élections dans ce pays sans préciser quand. Baudouin, vous avez suivi cette actualité, comment vous l'avez analysée?
Merci beaucoup, cher confrère. Et je dis tout simplement que le président de la République, il est le père de la nation. Et même s'il arrivait à donner un peu de chicotte, mais il peut caresser par le sens du poil. Et je félicite cette rencontre. C'est comme ça que nous disons à tout le monde qu'il est temps que nous mettions nos émotions à côté pour se regarder en face dans un dialogue sincère et constructif.
Même quand le président ne précise pas la date des élections.
Je dis ceci, ce n'est pas impossible. J'ai toujours dit qu'il y a toujours des solutions dans ce monde. Il y a des problèmes. Aujourd'hui, comme nous sommes en train de regretter ce qui se passe à Béni, ce sont des problèmes. Et à côté, ce sont les hommes qui créent les problèmes et ce sont les hommes qui cherchent des solutions. Donc le président a bien fait d'écouter, parce que le chef a le sens d'écoute, de comprendre et de trouver des solutions. Et c'est déjà un pas important. Je félicite, j'espère que le jeune, les 47 jeunes, je crois. Hein,
oui, les 47
jeunes. Les 47 jeunes qui sont allés voir le chef.
C'est le président qui les a invités.
Ah, voilà, parce que au sortir de la prison, après avoir bénéficié de la largesse du président de la République, et aujourd'hui le président est allé vers le peuple, parce qu'il est le père de la nation.
D'accord.
Il a appelé tout le monde, venez, échangeons, et ils ont échangé, il n'y a pas eu de casse.
D'accord, ok. Peter, c'est quand même une bonne nouvelle que le président initie cette rencontre avec les jeunes de la LUCHA.
Exactement, c'est une bonne chose que le chef de l'État veuille rencontrer la jeunesse, surtout la Lucha, pour entendre ce que la Lucha avait à dire. C'est une très bonne chose.
Et la Lucha a dit tout en face du président.
Exactement, et il sera encore mieux. C'est bien, mais il serait mieux maintenant qu'après avoir entendu que le chef de l'État agisse. Il ne peut pas s'arrêter à l'écoute, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont restées lettres mortes depuis, d'ailleurs, les rencontres ici avant le dialogue dont on parle maintenant. Il y a les concertations, il y avait des résolutions qui ont été prises, notamment la libération et la relaxation de beaucoup de chaînes de télévision. Ça n'a pas été chose faite, quand même que le chef de l'État avait entendu. Donc là, c'est bien qu'il ait rencontré la Lucha. Moi, je félicite encore ici ces vaillants jeunes qui ont pu dire au chef d'État ce qu'il fallait, et que par rapport à d'autres questions, le chef a dit qu'il devait répondre dans 48 heures. Nous attendons la réaction dans 48 heures, mais au-delà de ça, il faudrait qu'il y ait des faits. On ne doit pas s'arrêter à entendre. On doit agir. Il y a ceux de la Lucha qui sont en prison. Mais ce qui est aussi un peu surprenant, c'est que le chef de l'État, en tant que garde de la nation, moi je l'encourage, hein, d'avoir rencontré les terroristes. Donc, il a été avec les terroristes, il a parlé avec les terroristes. Je sous-entends que maintenant qu'il a rencontré les terroristes, ceux-là ne sont plus terroristes. Je sous-entends. Mais je veux dire, à la longue, ce serait mieux, après avoir rencontré ces...
Quand vous dites que le président rencontrait les terroristes, à qui vous faites allusion?
Oui, mais la Lucha, non? Ils ont été qualifiés des mouvements terroristes ici. Okay. Vous avez oublié. Et c'est pour ça que les Bienvenus Matumbo et les autres sont en prison. Hein. Donc, maintenant qu'ils ont été rencontrés par le chef, on ne sait pas s'ils ont toujours ce statut de terroriste ou pas, mais j'estime que serait une bonne chose de libérer des gens qui n'ont fait que demander le respect de la Constitution, et quand le chef de l'État dit que les élections auront lieu, sans préciser la date, ils ont parfaitement compris que la date, c'est le 19 septembre, comme la Constitution le veut.
Merci. Jean-Baptiste, comment vous, à Bukavu, vous avez accueilli cette initiative du chef de l'État?
Oh, merci beaucoup encore une fois, Franklin. Quand on a suivi cette nouvelle, c'était... très bien accueilli, parce que il y a toujours le dialogue qui peut résoudre beaucoup de problèmes, pourvu que ce dialogue soit sincère et que les résolutions qui en sortent soient des résolutions qui sont au bénéfice de la nation. C'était donc une bonne chose, mais là vous avez constaté que les jeunes de la Lucha que le chef de l'État a rencontré à Goma ont bien dit, c'est que presque tous les Congolais aient pris des paix et du respect de la loi disent chaque jour le respect de la Constitution et la tenue des élections en bonne date, ce qu'ils ont dit. Et là, vous avez suivi que le chef de l'État a dit qu'il y aura des élections dans ce pays, sans pour autant préciser quand. C'est ce que même les jeunes de la Lucha ont regretté, la précision par rapport à la tenue de ces élections-là. Mais également, je crois qu'il fallait aussi qu'on puisse préciser, parce que on a mis un accent sur le respect de la Constitution. Si, par exemple, le chef de l'État pouvait rassurer, en plus du fait qu'il a rassuré qu'il y aura des élections, dire que non, il y aura des élections dans ce pays, et moi, je ne serai plus candidat, je vais respecter la Constitution. Ça pourrait détendre la situation et résoudre beaucoup de choses, mais également, comme vient de le dire mon prédécesseur, au moins là, le chef de l'État, comme l'ont dit les jeunes de la Lucha, a dit que
il a reçu des citoyens, donc ce sont des citoyens congolais, contrairement à ce que l'on a attendu il y a un certain temps, où on les avait qualifiés du groupe des groupes terroristes. On n'avait même pas dit présumé, on avait dit que ce sont des terroristes. Ce qui est très dommage, je crois que là, les hommes politiques congolais doivent apprendre à se prendre au sérieux, parce que c'est le monde entier qui nous suit, et c'est le monde entier qui sait que le Congo, c'est un grand pays, à condition qu'on ait des gens responsables qui le gèrent.
Merci beaucoup. Et l'autre actualité de la semaine, c'est cette démarche que mène la Conférence épiscopale nationale du Congo depuis la semaine dernière auprès des forces politiques et sociales de la RDC pour comprendre les positions des uns et des autres afin de baliser le chemin du dialogue. Le secrétaire général de la CENCO a précisé que cette action ne remplace pas celle du facilitateur mais vient en appui à Edem Kodjo-Baudouin. Vous avez suivi la démarche de la CENCO. Comment vous avez analysé cela?
Cette fois-là, c'est la bonne. Contrairement au passé où il y a eu des tiraillements pour rien, alors que la RDC est notre patrie, nous devons la sauvegarder à tout moment. Lorsque l'Église, qui se dit souvent au milieu du village, se permet à volonté de mettre la main dans la pâte, c'est à féliciter franchement. Je crois que même les autres confessions religieuses, les kimbanguistes, les protestants, l'islam, devraient également placer un petit mot pour qu'ensemble, franchement, nous quittions ce stade de tâtement pour aller de l'avant dans le bon sens. J'apprécie, et je crois que, comme ce sont les gens de l'Église, que les politiques doivent tendre bien l'oreille et parler franchement de ce qui ne veulent pas et de ceux qui veulent. Lorsqu'on appelle tout le monde au dialogue, mais venez autour de la table pour poser tous les problèmes avec l'espoir qu'il y aura même des solutions progressivement. Non, j'applaudis, je suis serein, je vois que nous sommes en train d'évoluer vers le dénouement afin que le dialogue se tient réellement.
D'accord. Peter, est-ce que vous pensez que le prélat catholique peut réussir là où le facilitateur semble échouer?
J'aimerais d'abord savoir le prélat catholique. L'objectif, c'est en tant qu'église au milieu du village pour entendre tout le monde, oui. Mais puis après, pour que ça change quoi? C'est ce qu'il y a dit, qui récuse Kodjo, une partie récuse le facilitateur. Le simple affaire serait de changer de facilitateur et comme ça, les gens vont dialoguer. Ça changerait quoi? Pas grand-chose. Mais j'aimerais...
Donc vous êtes dubitatif. Hein.
Dubitatif par rapport à la démarche. Un coup d'épée dans l'eau. Mais j'aimerais quand même, parce que nous sommes en train de perdre du temps, mais j'aimerais quand même que les catholiques aussi n'oublient pas tous les communiqués qu'ils ont pu faire jusqu'ici par rapport à l'avenir du pays. Les catholiques nous ont promis qu'à un moment, ils vont sensibiliser tous leurs fidèles pour pouvoir faire respecter la Constitution. En tant que chrétien, je suis en train d'attendre impatiemment ce moment des catholiques parce que l'objectif de tout le monde ici, c'est le respect de ce texte qui nous relie tous.
Jean-Baptiste, la CENCO a constaté que chaque camp ne voulait pas faire des concessions pour aller au dialogue et les analystes estiment que le risque de blocage est à craindre. Est-ce que vous partagez cet avis?
Bon, je ne le partage pas totalement, mais il est possible cet avis-là. Mais je crois que tout compte fait, ça finira par se régler par le dialogue, quels que soient ceux qui sont contre et ceux qui sont pour. Je crois qu'ici, toutes les questions politiques, toutes les grandes guerres, or ici on n'est pas encore arrivé à la situation de guerre, finissent toujours par se régler par le dialogue. Pourvu que ce dialogue, on le souhaite qu'il soit sincère. Je crois que les prélats, c'est vraiment une bonne démarche, d'autant plus que ils ont cette chance, cette possibilité d'être acceptés par toutes les parties, mais souvent chez nous, hein, c'est un problème. J'ai même parfois pitié pour les évêques qui, des fois, sont en train de fournir beaucoup d'efforts, mais les acteurs politiques, c'est là que les choses se compliquent. Je crois que c'est vraiment une bonne chose que les prélats aient pris cette démarche-là, mais l'essentiel ici, c'est qu'il faut que la classe politique puisse comprendre que les temps ne jouent pas à notre faveur, parce que au Congo, on a comme impression qu'on a tout le temps, on pense que tout va se régler, on a tout le temps, pendant ça, les jours passent, les tensions montent, et les tueries continuent dans beaucoup de coins. Il n'y a pas que Ben, il y a également dans la plaine de la Ruive, il y a également au Kassai. Donc moi je crois qu'il faut qu'on aille très vite parce que le prélat, j'ai lu La Prospérité le matin qui a parlé qu'il faut éviter l'apocalypse, mais pendant qu'on est en train de l'éviter, est-ce que l'apocalypse n'est pas encore là avec ce qui s'est vu aujourd'hui à Beni?
D'accord. Très rapidement, Jean-Baptiste, qu'est-ce qui fait l'actualité chez vous en ce moment?
En ce moment ici, il y a d'abord cette insécurité qui continue dans la plaine de la Rouzizi où des civils sont régulièrement tués. Il y a des coupures de route qui continuent cet axe qui relie le sud Kivu à la province du Katanga en passant par Uvira et Fizi. Il y a aussi cette question des femmes, des militaires qui ont manifesté hier au niveau de la 33e région militaire pour réclamer la paix de la sorte de leur mari. Et ça a vraiment perturbé quelque part les activités dans la ville, mais aussi il y a la question de la prime. Certains syndicats et la société civile qui insistent sur le fait qu'il faut que l'année prochaine, les parents cessent de payer la prime et il y a risque de voir l'année être blanche dans cette partie du pays. Mais là, il faut noter que les syndicats sont divisés parce que lors de la dernière réunion, tenue en début de semaine ici à Bukavu, on a vu que cette démarche de la société civile et même de certains syndicats risque de ne pas récolter des effets de ce côté, d'autant plus qu'on sait qu'il y a une grande division au niveau des syndicats. Il y a les syndicats des écoles conventionnées catholiques et protestantes qui n'ont pas été au rendez-vous, mais par contre, les syndicats des écoles non conventionnées étaient là.
Merci.
Et on va voir, donc, wait and see, comme disent les Anglais.
Merci beaucoup, et tout de suite, nous commençons notre thème de la soirée qui concerne la situation à Beni. Au moins 50 morts, c'est le bilan du massacre survenu samedi soir au quartier Rwangoma à Beni au Nord Kivu. Plusieurs sources locales ont attribué ce nouveau drame aux rebelles ougandais de l'EDF et pour manifester leur ras-le-bol, les habitants de cette ville sont descendus dans la rue dimanche et sur place, la société civile locale a pensé que ce carnage aurait pu être empêché. Retour sur ces événements avec vous, Gisèle Cage.
Vers 17h locales de Beniville, les populations du quartier Païda auraient aperçu une colonne de combattants EDF se dirigeant vers Kasanga et Rwangoma dans la colline de Beou. Et vers 18h, ces combattants ougandais ont commencé leur sale besogne, tuant au passage à la machette et à la hache des populations trouvées dehors et dans leurs habitations et même ceux qui revenaient de leurs champs, indique la société civile de Beniville. Au moins 36 morts, dont des femmes enceintes, indique la même source. La morgue de l'hôpital général de Beni est débordée de cadavres, faute de place. Le corps des victimes sont actuellement entassés les uns sur les autres sous la protection des policiers qui empêchent tout accès aux populations. Les bilans pourraient encore s'alourdir selon toujours la société civile car d'après elle, certains corps sont retrouvés au fur et à mesure que les recherches s'effectuent sur le terrain. Pour la société civile, les forces de sécurité auraient pu empêcher ce massacre car la population avait déjà signalé la présence de ce rebelle dans la ville quelques heures auparavant. Pasteur Gilbert Kambalé, président de la société civile de Beniville.
Il fallait qu'on mette une forte ceinture autour des grandes d'agglomération. Apparemment, on ne sent pas cela. Il ne faut pas subir les événements, mais plutôt les précéder.
La population en colère est descendue dans la rue pour protester contre ce massacre et demander la démission de certaines autorités du pays. Goma, Gisèle Cage, Radio Okapi.
Et face à ce nouveau massacre, les autorités congolaises ont décrété entre lundi et mercredi un deuil national. Cependant, mercredi matin, des centaines de jeunes ont manifesté spontanément dans la ville de Beni, une manifestation initiée par différents groupes de jeunes pour protester contre la recrudescence des massacres des civils dans la ville et le territoire de Beni. Selon la société civile, au moins 1200 personnes ont déjà été tuées dans cette partie du pays depuis 2014. Des précisions avec vous, Rosalie Zawadi.
C'est dans ce climat que les jeunes de Beni ont manifesté ce mercredi. Tantôt, ils se mettaient à l'abri devant les gaz lacrymogènes et les tirs des forces de l'ordre. Tantôt, ils criaient leur colère suite au massacre des civils dans leur région.
On est fatigué du fait que ça fait autant d'années. Nous sommes exposés à n'importe quoi. Chacun se réveille de chez lui et s'installe aux yeux puissants des autorités. Ils trouvent plaisir de tuer la population civile.
Trop, c'est trop. Des fois, on nous tue, mais ceux qui sont censés nous protéger, ils nous disent que non, c'est le présumé ADEF, guerre asymétrique, mais nous, population, nous sommes en train de mourir.
Avec des bandeaux de couleur blanche sur la tête et des feuilles vertes dans les mains, ces jeunes disent demander la paix. La manifestation de ces jours marque la fin des 3 journées ville morte décrétées par la société civile après les massacres des dizaines de personnes le week-end dernier à Rwangoma. Cet après-midi, la grande tension de la journée tend à tomber et laisser place à la peur de la nuit. Beni, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Et pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, sachez que Berry Franklin Lutchaka, qui vous présente cette tribune de presse, reçoit dans ce studio Baudouin Saïlé. Il est journaliste et éditeur du journal La Chopo, un média paraissant ici à Kinshasa. Peter Tiani, journaliste et directeur du Vrai Journal, partenaire à Canal Congo Télévision et certains autres médias quinois. Et en province, Jean-Baptiste Badera, qui intervient à partir de Bukavu. Il est journaliste et directeur provincial de Canal Futur, un média émettant à Bukavu et aussi correspondant de l'AFP. En un mot, comment vous avez analysé ce nouveau massacre, Baudouin?
Avant de me prononcer là-dessus, permettez-moi de chanter un petit extrait du Debout Congolais, notre hymne national. Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
La patrie est en danger. Nous devons nous mettre debout, comme l'exige notre ligne nationale, et à l'unisson, trouvons la solution à ce problème de massacre. Je suis en train de suivre le reportage de ma consoeur de Béni, qui dit que quelque part, on a tué des femmes enceintes. Les femmes enceintes, les vieillards qui reviennent de la bourse avec un peu de pommes de terre dans le sac, démunis. Mais ça, c'est quelle sorte de vie, ça? Non, cette fois-ci, je crois que c'est la énième fois. Le chef de l'État était déjà là, il y a peu.
Et malgré sa présence, on a quand même tué.
Et cette fois-ci, il est rentré au front. C'est un encouragement politique de taille. Vraiment, le peuple est content de la présence du chef. Quelque part, à Goma.
Le peuple est content, mais quand même, il y a eu des tueries, comme je vous viens de vous le dire, pendant qu'il est présent sur place.
On ne comprend plus ce qui se passe concrètement à Béni, mais selon le rapport du porte-parole du gouvernement, parmi les traîtres, il y a des Congolais.
Très bien.
Il y a parmi... Et c'est dommage.
D'accord. Peter, comment vous avez analysé cette actualité?
Nous pouvons tout dire sur mon bouton. Il faut me recadrer si je suis un peu passionné. Le reportage m'a énervé. J'espère que je veux...
Analyser froidement l'actualité.
J'espère que je vais y arriver. Sinon, vous allez faire le travail, le montage. Je suis désolé. Nous pouvons tout reprocher à Mobutu. Nous avons retenu une chose. On n'a pas été traité comme des chiens chez nous. Le Congolais est fouetté en Angola comme un animal. Il est tué en Afrique du Sud comme un moins que rien. Récemment, il vient d'être traité à Brazza ici comme un chien. C'est maintenant dans son propre pays, il n'a pas le droit de vivre. C'est dommage. On nous a laissé entendre ici qu'on ne peut pas organiser des élections parce que l'argent devait aller à la guerre. Après 2 mandats, on a fait quoi? Matata a été conspué. C'est dommage. Comment voulez-vous diriger une maison? Vous êtes le papa. Les enfants meurent tous les jours. Pendant que vous êtes là, vous ne faites rien. Dans les pays développés, il devait y avoir des démissions en cascade. C'est pas normal. Même quand le chef de l'État est là, les gens meurent. Ça veut dire quoi?
Donc vous êtes d'accord avec les opposants qui exigent la démission du Premier ministre, par exemple?
Je suis d'accord avec ceux qui pensent que ceux qui sont censés donner la sécurité aux Congolais ont fait piètre figure. Et aujourd'hui, je vais peut-être terminer par là si vous voulez donner la parole à quelqu'un d'autre.
À Jean-Baptiste Cannon.
Ce n'est pas les FRDC qui manquent. Non. Parce qu'avec les mêmes FRDC, on a vu un certain Mamadou Ndala. Avec le même FRDC, on a vu un Moussa Mabé. Avec les mêmes FRDC, on a vu avec Bahouma. On sait malheureusement comment ils sont morts. Moi, je suis allé au funérailles de Mamadou Ndala au Kankoko, si je ne me trompe pas, sur 24, là. C'est dommage. Malheureusement, ce n'est pas les FRDC qui manquent.
Merci. Jean-Baptiste, comment vous avez analysé cette actualité?
Oui, merci encore une fois, Franklin. Il faut d'abord commencer par très rapidement présenter nos condoléances les plus émues à nos compatriotes, à nos frères de Béni. Mais il faut dire ici que c'est vraiment une grosse tristesse. Et c'est incroyable ce qui se passe dans cette partie de la République démocratique du Congo. Et l'analyse que j'ai faite, on a comme impression que nos autorités actuelles sont en train de gérer le pays, pas avec la tête, mais avec le cœur. Quand on voit comment les choses sont en train de se passer sur le terrain, vous constaterez que, quelque part, c'est comme si on avait tendance à isoler les autres compatriotes qui peuvent amener des solutions, et se limiter à des solutions qui aujourd'hui ont monté des grandes limites qui ne sont pas à mesure de régler la situation à Beni. Vous avez parlé, Kelly Koute, dans la revue de presse, a parlé de la proposition que Vital Kamerhe a donnée, la tenue d'une table ronde sur la question de Beni. Vital Kamerhe a rencontré, il y a de quoi de cela quelques mois, le président du Sénat, Léon Kyungu Adondo, je crois également le Premier ministre, il était même question que des compatriotes congolais puissent descendre à Beni pour évaluer la situation et réfléchir comment trouver des solutions. Vous constatez que ce n'est pas la première fois que le chef de l'État est en train de se battre pour que la paix revienne à Beni. Il est déjà arrivé là plus de deux fois et à chaque fois qu'il repart, ce sont des massacres. Donc on ne sait pas quelque part s'il s'agit d'un sabotage, mais là, je crois que la question était maintenant de d'unir toutes les intelligences, de mobiliser toutes les intelligences congolaises pour voir comment on peut résoudre cette question-là, au lieu de rester en train de pleurnicher tout le temps. Et vous avez vu comment la population de Beni a accueilli le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, quand ils sont arrivés là. Donc c'est un message que les gens sont fatigués et on n'a plus besoin d'un sondage pour montrer que les gens de Beni en particulier et les Congolais en général sont fatigués de la gouvernance actuelle. Parce que plus de 1000 morts, 1000 personnes tuées, des maisons brûlées dans une période de 2 ans, c'est quand même beaucoup.
D'accord.
Et
alors,
c'est quand même que cette question de dialogue ne devienne demain comme sur des distractions pendant que les choses très graves se passent dans la partie est et notamment à Beni.
D'accord. Puisque vous avez la parole très rapidement, comment vous avez analysé la déclaration du porte-parole du gouvernement selon laquelle ceux qui ont perpétré ces massacres, ce sont des djihadistes et autres extrémistes?
Non, c'est vite fait, hein. C'est lui qui l'a dit, c'est le ministre de la Communication qui l'a dit, c'est lui-même qui avait encore qualifié il y a quelques semaines les jeunes braves de la lutte des extrémistes. Là, bon, ce sont ses propres propos, mais moi je crois que vraiment, comme l'a dit Tchani, il y a un problème de gouvernance. Quand on voit comment les pays comme l'Ouganda, parce que les armes viennent de l'Ouganda, l'Ouganda est calme, et quand on voit comment on vit le Rwanda est calme, on voit les pays comme l'Angola est calme, le Congo-Brazzaville est calme, la Zambie est calme, et maintenant c'est comme si nous sommes une passoire, c'est un dépotoir où on a maintenant tous les bandits qui sont déversés sur la RDC, et là c'est une question de gouvernance, c'est une question de leadership, je crois que là on doit en tout cas mobiliser toutes les énergies pour qu'on puisse mettre fin à cette situation et parler des djihadistes, c'est trop vite. Je crois que là, il faut des enquêtes pour établir, peut-être, entre guillemets, ou au conditionnel. Et on fait appel à la communauté internationale et suivi ça dans certains de nos dirigeants. C'est quand même un peu paradoxal. Quand il s'agit de dire, de demander aux Congolais de respecter la Constitution, ils disent que non, il s'agit d'une ingérence. Mais quand il s'agit de difficultés, on ne sait pas où mettre de la tête, on sent quelque part que certains de nos dirigeants sont perdus dans l'exercice de leurs fonctions. On dit que non, on est abandonné par la communauté internationale. Je crois qu'il faut qu'on prenne nos ressources à main et prouver à la face du monde que le Congo, quand même, c'est un grand pays.
Merci.
On retrouve quand même cette fierté de dignité nationale et internationale.
D'accord. Alors, je reviens à vous, Baudouin. Le porte-parole du gouvernement a parlé des djihadistes, auteurs de ces actes barbares. Est-ce que vous partagez son analyse?
Ce sont des gens qui tuent facilement. Hein. Ils doivent avoir des... Quelle est la situation? Parce que le forfait est là.
Mais généralement, généralement, les djihadistes, ils revendiquent leurs attentats.
Le porte-parole, entre autres, a dit que... il y a des Tanzaniens, il y a des Ougandais, il y a même des Congolais. C'est là où ça m'a tiqué. Mais pourquoi un Congolais peut prendre la hache, la machette?
Est-ce que d'abord c'est dans la culture des Congolais?
Nous n'avons pas cette culture-là.
Mais ça vient d'où?
De la cachette française. Je ne sais pas, avec autant de guerres d'agression, tout le monde est venu chez nous pour prétendre faire du monde et quoi. Et aujourd'hui, nous sommes contaminés par ce fléau qui n'a pas de nom.
Vous pensez que le Congolais est facilement contaminable par ce genre de d'actes?
Mais les agressions au niveau du Grand Kivu, même en Ituri chez moi, même aujourd'hui à Poco, où il y a les Mororo, nous n'avons pas la culture de la gâchette facile. Mais nous sommes entourés par tout ce monde-là qui viennent nous distraire parfois. On vous donne un petit 500$, vous tuez votre frère propre.
Et donc vous êtes d'accord avec les autorités provinciales du Nord Kivu qui accusent certains opposants de tirer les ficelles?
Je ne sais pas si les opposants sont en train de tirer les ficelles, mais je constate même que parmi les tueurs, il y a des Congolais. C'est ce qui est cœur. Aujourd'hui, je peux ajouter ceci. Nous sommes en difficulté. Il faudrait qu'on fasse un effort de guerre. Que tous les gouverneurs de province, par exemple, puissent cotiser, puissent donner l'argent aux grands qui vont. Que tous les PDG, la même chose, tous les ambassadeurs, tous les bourgmestres, tout le monde mette la main dans la pâte afin qu'on constitue vraiment une force musclée pour faire le ratissage. On en a, ça en est trop quand même pour le problème des morts.
D'accord.
Et une femme enceinte décapitée, est-ce que c'est normal? Vraiment, c'est, ça se paye d'une manière ou d'une autre sur cette terre des hommes.
D'accord. Alors, Peter, comment vous réagissez par rapport à cette déclaration du porte-parole du gouvernement?
D'abord, je ne sais pas s'il faudrait qu'on aille au dialogue pour résoudre la situation dans l'Est. C'est la première question que je me pose. Est-ce que dans le dialogue, on va traiter cette situation parce qu'il s'agit des vies humaines? Un deuxième aspect, les ADF sont des Ougandais qui sont au Congo. Mais c'est des rebelles Ougandais qui ne font pas du mal aux... Dans leur pays, ils font du mal au Congo. Des FDLR, des rebelles rwandais, qui font rien au Rwanda, mais qui tuent des Congolais. Je ne comprends rien. Autre aspect, on nous a fait une démonstration de force ici. Les armes, les 30 juin ici. J'ai vu des avions. Où sont passées ces armes? Vous avez remarqué que c'est des djihadistes. Mais vous avez une puissance militaire. Où est cette puissance militaire pour mettre fin à ça? Lorsque les gens sont en train de manifester, vous emmenez tout un armement et vous nous démontrez que vous avez fait des bonnes techniques à l'étranger pour disperser et pour arrêter les gens. Mais quand il s'agit des djihadistes dont vous avez repéré, vous êtes incapable de le mettre en état de nuire. C'est des questions qu'on se pose. Et même cette histoire de complicité. Tous ces généraux qui... Mais c'est dommage. Il y en a un qui était cité dans un rapport des Nations Unies qui vendait des armes aux rebelles, mais il se la coule douce ici au pays. Il y en a un autre qui vient d'être cité, hein. Il est là-bas, on va voir ce qui va arriver avec... Mais c'est dommage, il n'y a pas de sanctions. Alors comment voulez-vous que les gens ne puissent pas réfléchir deux fois quand vous nous dites qu'il s'agit des djihadistes, quand vous savez qu'il s'agit de telles personnes, et vous n'êtes pas dans la capacité de pouvoir mettre la main sur ces gens? C'est des questions que nous sommes en train de nous poser, mais on finit. Même ne serait-ce le gouverneur du Nord Kivu, est-ce que vous ne pouvez pas nous prendre le monsieur, même par élégance, mettre un peu ce monsieur? Il a laissé sa population qu'on l'aime être entrée. Lui, il avait fui. Il a laissé sa population à la merci de rebelles. Il est revenu, il devait avoir honte. Pire, il y a peu qu'on a commencé à tuer à Beni, il s'est complu à tweeter la victoire de Barcelone. Nous avons le tweet. Aujourd'hui, c'est des gens qui peuvent se permettre de dire des choses. Lorsqu'on a failli à un moment, il faudrait se regarder dans le miroir et dire, on ne peut pas accepter, si on est Congolais, on a ce sang qui coule dans nos veines, comme mon aîné vient de chanter l'hymne national ici, que nous puissions nous permettre de voir nos compatriotes, nos similaires, nos frères et sœurs en train de tomber, et on reste comme ça unanime. Ça veut dire quoi?
Alors parmi les réactions, il y a le pape François qui a dénoncé un silence honteux de la communauté internationale face à ce drame. Qu'est-ce que vous en pensez?
On nous a dit ici que nous sommes un État souverain. On nous a dit ici qu'il ne faudrait pas que les gens fassent immixtion dans les affaires internes de notre pays. Nous avons une capacité. Alors, nous devons faire preuve de cette capacité. Nous avons des ennemis qui sont venus. Laissons les étrangers tranquilles. Nous sommes souverains. Montrons notre... Comme quelqu'un peut rire, une fois le ministre a démontré votre adultère. Montrez-le sur terrain. Ce n'est pas à l'entraînement qu'on connaît un combattant, pas un soldat, c'est au champ de bataille. Les Congolais sont en train de mourir. Vous avez eu un mandat pour protéger la population. Alors, l'armée est pour défendre l'intégrité territoriale. Pas plus tard qu'il y a peu, on a même appris qu'il y avait un drapeau soudanais qui flottait vers l'équateur là-bas. Mais c'est un passoire maintenant, tout le monde peut entrer et sortir quand il veut, mais nous sommes où là? Nous sommes où?
D'accord. Alors, nous allons évoquer maintenant les pistes des solutions. Lundi, le Conseil supérieur de la défense s'est réuni à Goma, au Nord Kivu, en présence du chef de l'État, pour évaluer la situation sécuritaire à Beni avec les événements malheureux du week-end qui ont endeuillé plusieurs familles. Selon le porte-parole du gouvernement, une série de mesures ont été prises à cette occasion pour rendre plus efficaces les actions visant à éradiquer les forces terroristes qui endeuillent les populations de Beni. Le ministre Lambert Mende parle notamment du renforcement de la coopération entre les populations civiles et les forces de sécurité. Le porte-parole du gouvernement donne plus de détails au téléphone de Guy Maté.
Il y a eu une série de dispositions qui ont été prises par les membres du Conseil supérieur de la défense pour rendre plus efficientes les actions à entreprendre pour éradiquer de manière plus efficace et définitive ces forces terroristes qui utilisent des méthodes asymétriques. D'une manière générale, il faut une grande coopération avec la population parce qu'il ne s'agit plus d'une guerre conventionnelle avec deux tranchées face à face. Il s'agit d'une guerre de lâches. Vous savez, le terrorisme est une guerre de lâches et donc les renseignements jouent le rôle le plus important. Et dans le renseignement, la population doit coopérer avec les forces de défense et de sécurité pour signaler tout ce qui se passe afin de permettre aux forces de sécurité d'anticiper les actions des terroristes qui utilisent la asymétrie dans le choix des cibles.
Baudouin, comment vous avez analysé ces mesures qu'a présenté le porte-parole du gouvernement?
Moi, j'aimerais toquer une fois de plus devant la porte de notre compagnon de lutte, la MONUSCO. La MONUSCO qui dispose de près de 17 000 hommes. La MONUSCO qui a autant d'hélicoptères, autant de fusils d'assaut, autant de matériel sophistiqué, qu'elle ne reste pas en marge, qu'elle puisse continuer. Parce que la MONUSCO est venue chez nous pour nous épauler, pour nous accompagner. C'est elle peut-être qui est plus expérimentée en la matière, qui essaie d'envoyer ne plus que 7000 hommes dans Béni.
Mais la coopération entre les FRDC, les forces de sécurité et la population, pour vous, ce n'est pas une mesure efficace, comme l'a dit le
gouvernement. Je devrais continuer d'abord par notre compagnon de lutte de la MONUSCO.
Rapidement,
franchement, après la MONUSCO, la population, c'est vrai, parce qu'il paraîtrait que c'est là le reportage de notre consoeur, qu'ils ont vu une colonne des gens, un civique, à 17 heures. C'est-à-dire que pendant qu'il fait encore jour, il s'est dirigé vers quelque part, et à 18 ou 19 heures, il y a eu l'hécatombe. Donc, la population, je ne sais pas comment on peut l'expliquer, a sa part d'exploitation, qu'elle continue à fournir des bons renseignements auprès
mais c'est
de la
FARDC. Toujours la population.
Cette fois-là, il faudrait que ça... Faites cela, comme le chef de l'État est à Goma, qu'on mette un peu d'eau dans le vin, qu'on réfléchisse calmement par où commencer et comment évoluer jusqu'à finir l'aventure de ces hors-la-loi.
Merci. Alors, Peter, parmi les mesures qui ont été prises, il y a aussi ce couvre-feu qui est déjà entré en vigueur, tel que l'a annoncé le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Comment vous analysez toutes ces mesures qui ont été prises?
Du saupoudrage, des épiphénomènes. C'est pas ça le problème. Qu'il refasse ce que Mamadou Ndala a fait, qu'il refasse ce que Mbouza Mabé a fait, qu'il refasse ce que Bahouma a fait, la solution va être trouvée. Quand on a voulu déloger les Boudoudia Congo, on l'a fait, hein. On l'a fait, hein. Quand on a voulu déloger les Mokongobila, on l'a fait. Ben voilà, donc il ne faut pas qu'il y ait de la distraction, une distraction d'ailleurs qui énerve. Parce que les caméras qu'on a mis ici à Kinshasa, partout à gauche, à droite, ces caméras devaient servir là-bas, Béni. Pourquoi il y a une guerre ici à Kinshasa? On vient mettre des caméras à Kinshasa, pourquoi? Ces caméras de surveillance qu'on a mis à Kinshasa, ne pourront pas le mettre à Beni là-bas, comme ça on peut voir ces djihadistes facilement. Il y a peu, Lubumbashi était militarisé. Mais amenez les armes là-bas, à Beni. On en a besoin là-bas. On a besoin que le combattant meure là-bas. Pas la population. C'est ce dont on a besoin, c'est ce dont la population a besoin. Il ne faudrait pas multiplier des bourdes. Le gouvernement congolais n'a fait que multiplier des bourdes. C'est comme ça que Matata a été hué, conspiré. Ici, on nous a parlé de la S. On a inauguré la SNCC. Les machines ne se sont jamais allumées. On a inauguré la fibre optique. Je ne sais pas si à Radio Capu, vous avez la fibre optique. On a inauguré ITB Kokolo. Ça fait deux tours, il est mort. Vous avez Congo Airways avec Nengapeta.
Non, je comprends.
Vous avez Nengapeta.
Oui,
je
veux. ITB, confrère.
Qu'est-ce qu'il va bien? Il continue.
S'il vous plaît.
ITB continue.
Il y a le problème de la chute d'eau.
ITB continue.
Il y a le problème des chutes d'eau.
Ah, d'accord. Problème des chutes d'eau, d'accord.
D'accord.
Merci pour votre précision. Nengapeta, il est où?
Il y a connu un problème technique.
Ok, d'accord. Très bien.
Donc, c'est des bourdes et des bourdes. 100 millions de dollars. Pour un hôpital juste un conteneur, 100 millions de dollars peut résoudre, je vais moderniser ma Mayem où les gens meurent pour 3000 francs. Mais regardez maintenant les travailleurs, vous avez vu ce qui s'est passé? Il y a même un ministre qui a été giflé là-bas. Mais voilà, c'est des bourdes. Et maintenant, c'est la situation dans l'Est. À un moment, c'est un assemblage des choses qui tapent à la population. Alors, il faut se rendre en cause, se rendre en question et se dire qu'on a failli à notre mission.
D'accord.
Par modestie.
D'accord.
Soit on dépose,
merci,
soit on clôture bien son mandat, sinon c'est la catastrophe.
Merci. Hein. Alors, Jean-Baptiste, il nous reste moins de 5 minutes pour conclure cette émission. Le commandement militaire a proposé des nouvelles tenues qui ne seront portées que par les militaires qui opèrent dans le secteur opérationnel du Grand Nord. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que c'est une mesure qui peut facilement enrayer cette menace des terroristes ?
Moi, je ne pense pas. Je ne suis pas stratège militaire pour m'exprimer avec toute la vérité sur cette décision, mais je ne pense pas que ce soit la bonne, hein, parce que vous voyez, pourquoi seulement des tenues militaires congolais qui sont utilisées par ces rebelles qui massacrent dans cette partie de la République, et pourquoi pas des tenues d'autres pays? Donc, quelque part, on peut croire à une complicité. Et c'est là même que je pitié pour le chef de l'État qui fait tout. Il se bat pour que les choses reviennent normales dans cette partie de la province du Nord Kivu, mais ça ne marche pas encore. Moi, je crois que la meilleure solution serait, par exemple, cette tenue d'une table ronde sur cette question, comme le président de la République s'est entretenu hier avec les gens de la Lucha, qu'il puisse étendre ça aux opposants, qui sont parmi eux, ils sont des connaisseurs de terrain, aux autres acteurs de la société civile, qu'on puisse faire cette table ronde à Goma, par exemple, pourquoi pas à Beni, sur place, au moins que ces acteurs restent à Beni pendant le plus longtemps possible, jusqu'à ce que la paix revienne dans cette partie du pays, parce que dire qu'il faut changer de tenue, ici, à Bukavu, c'est tous les jours que les policiers se battent sur avenue Patrice Emery Lumumba, pour ceux qui connaissent Bukavu, avec des petits motards, des femmes pauvres vendeuses de bananes ici, alors que des grâces lacrymogènes sont lancées à longueur de journée sur ces femmes, ce qui est très dommage pendant qu'on a besoin de ces armes à Beni.
Merci.
Et on voit partout là, quand vous ouvrez les radios le matin, au sommaire, ce sont des nouvelles de l'insécurité et qui battent leur place dans toutes les radios. Donc,
merci.
Moi, je pense qu'il faut une communion de toutes les intelligences congolaises pour voir comment on peut mettre fin, associer la population à cette démarche pour que la paix revienne à Beni.
Je prendrai ça aussi pour votre conclusion, Jean-Baptiste Badera. Merci. Baudouin, un mot en guise de conclusion pour...
Je demanderai à nos confrères journalistes, dès lors que nous passons, par exemple, à Okapi, qui est la chaîne mieux écoutée à travers le monde, qu'il n'y ait pas de passion, qu'il n'y ait pas de sentiments dans nos déclarations. Je dis ceci. Par exemple, le cas de l'ex-Onatra.
Non,
s'il vous plaît.
Okay.
Laissez-moi finir.
Okay.
L'ex-Onatra vient d'être trop loin. Le nouveau comité de gestion se bat au jour le jour pour mettre le train sur les rails, pour mettre le bateau sur les rails. Il n'y a pas que du noir. Il y a la calmer à l'Onatra aujourd'hui parce que les gens sont payés régulièrement, même avec un peu de retard.
D'accord.
Alors, il ne faut pas, lorsqu'on ne veut pas d'une tête d'une personne, qu'on puisse distraire l'opinion par des propos qui n'agentent pas.
Très bien.
Je demande à mon frère, prochainement, prochainement, d'être sur le bon rail pour ne pas décourager les bonnes consciences. Alors, en conclusion, dites ceci. J'encourage le président de la République qui souvent dit, si j'avais 15 collaborateurs.
Ah, il n'en a pas jusqu'à aujourd'hui.
Il avait dit, et il continue peut-être à chercher les 15 collaborateurs,
et le mandat
qui permettra... Non, écoutez, ce n'est pas la fin du monde. Le mandat finira toujours un jour. Le mandat de qui que ce soit finira toujours un jour. Ce n'est pas la fin du monde.
Merci.
Rien n'empêche, même si on est en temps vers la fin du mandat, de changer. Voilà, Okapi fait du bon travail. Il appelle les journalistes pour analyser des faits. Alors que nous sommes là pour travailler. Vous comprenez? Je dis tout simplement que le président de la République est là, qu'il dispose un peu de son temps pour encourager psychologiquement les Nogans qui vous, le Nord qui vous, bénéficiaire de ça.
Merci beaucoup. Peter, un mot guise de conclusion.
Avec modestie, mon aîné, je prends le conseil avec beaucoup de modestie, j'ai beaucoup d'estime pour vous. Et je vais vous rendre l'ascenseur en vous disant que regardez le pays que vous allez nous laisser, Kulutu. Est-ce que vous êtes fier de nous laisser ce pays? Moi, j'estime que nous, vos jeunes frères qui sommes venus dans ce métier, nous ne voulons pas laisser dans cet état nos enfants. Il s'agit de nos vies, de l'avenir de nos enfants, Kulutu. Regardez ce qu'il est aujourd'hui. Ça ne peut pas passer avec notre génération. Si ça passe avec notre génération, alors elle aura inutilement existé.
Très bien, en guise de conclusion.
Ça va aller.
Merci beaucoup. C'est sur cette note que la tribune de presse de ce soir prend fin. Je dis merci à Kéline Kouté qui m'a aidé à préparer cette émission, Pélé qui fait la monde, qui l'a supervisé, et Héritier Sidiakala qui était à la mise en onde. N'hésitez pas à nous faire des remarques et des suggestions, écrivez-nous à dec@radiocapi.net. Excellent week-end à vous tous et au plaisir de te retrouver la semaine prochaine. Au revoir.